Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'église de l'Épi. Ce matin, on est heureux de célébrer Jésus ensemble. On est à la fin de l'année et on est juste à quelques heures d'une nouvelle année. Et quoi de mieux que de pouvoir proclamer la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, avec vous qui êtes en ligne avec nous ce matin, avec vous qui êtes ici en présentiel. On va proclamer les attributs de Dieu. Dieu est grâce. Amen. Dieu est bon, Dieu est majestueux. Et on va proclamer toutes ces belles promesses, toutes ces belles choses que Dieu est, qui Dieu est ce matin ensemble. Sola gratia. Amour.
Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce.
Proclame-le. Proclamons-la pour 2024, elle ne va pas changer. La grâce de Dieu sera encore là. D'ailleurs, en 2024, on pourra continuer à dire à Dieu, on veut apprendre à être à son image, n'est-ce pas ? En toi, je sais qui je suis. Attribut de Dieu, c'est sa majesté, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de tous les règnes. Alors nos circonstances parfois ne traduisent pas la majesté de Dieu, mais il règne vraiment. Il est en train d'agir et on va le proclamer au travers de ce chant. Dieu est assis dans le ciel, son trône est éternel. Voilà une belle promesse pour nous en 2024.
Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté, les anges chantent à toi.
Les
cieux et les mers, la vie, la lumière nous parlent de toi. Tu les as créés, les as appelés au son de sa voix. La terre. Dieu tout puissant, tu es saint, la création, loue ton nom, sous serviteur, tu vins sur la terre révéler l'amour. Divin créateur, merveilleux sauveur, tu vis pour toujours. Souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint.
La création.
La toi la gloire.
Désolé. Le prochain dit « Reçois de moi le parfum qui t'est dû ». Les plus anciens se souviendront et ceux qui sont nés après 2000 l'ont découvert et le chantent avec nous.
Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, oh, mon âme est perdue, je veux naître qu'à toi. Je t'aime. Reçois du pain que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi.
J'ai sur mon cœur une parole pour quelqu'un qui souffre de ce qu'il appelle l'injustice qu'on lui a fait. Tu as été blessé par les paroles, par les attitudes de ceux avec lesquels tu as collaboré, tu as été profondément affecté au point de reculer. Et ça fait maintenant les années que tu traînes avec toi cette souffrance. Tu dis, on m'a pas fait droit, on m'a pas fait justice. On m'a pas écouté. Le Seigneur te dit ce matin, il y a d'un côté, c'est vrai, c'est dû à l'incompréhension de ceux qui collaboraient avec toi, qui n'ont pas saisi ta façon de voir, de penser. Mais de l'autre côté, c'est aussi la rigidité de ton propre caractère. La rigidité dans ta conception des choses. Et les deux combinés ont provoqué en toi cette incompréhension, ce sentiment qu'on t'a maltraité, qu'on a été injuste avec toi. Le conseil que le Seigneur te donne ce matin, c'est de pardonner. Même si tu ne comprends pas tout, même si tu estimes que les autres devraient venir vers toi, mais commence-toi par pardonner. N'entre pas avec ce fiel amer dans ton cœur dans une nouvelle année où les choses vont de nouveau se répéter. Mais décide de déposer au pied de la croix cette souffrance, cette incompréhension, cette injustice dont tu as été victime. Et pardonne et essaie de comprendre la façon des autres, comment ils ont pu voir ton action. Pardonne et décide de passer à autre chose. C'est ainsi que tu trouveras la délivrance, la libération, la guérison de ton cœur, de cette amertume qui te ronge. Pardonne et va en avant dans une nouvelle année qui est devant toi. Amen.
On vient de le chanter, je ne veux n'être qu'à toi. Et cette parole nous amène à vivre comme Christ, même lorsqu'on vit l'injustice. Et je crois que c'est un encouragement pour nous. Dieu ne nous promet pas une vie facile pour 2024, je vous le dis tout de suite. Mais par contre, il nous promet d'être avec nous. Et nous, notre désir, c'est de nous aligner avec lui encore pour cette année. Que notre cœur, que notre vie soit alignée sur le cœur de Dieu, pour qu'on puisse faire une différence dans cette saison qui arrive. J'aimerais vous encourager, alors que 2024 s'approche par une parole que j'ai eue à cœur ce matin en préparant ce temps, c'est Paul qui nous dit dans Philippiens, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. J'aimerais juste qu'on focus sur le mot dans une attitude de reconnaissance. Vous savez, on peut vite voir tout ce qu'on a perdu ou tout ce qu'on n'a pas eu et pas voir tout ce que Dieu a fait. Est-ce que vous voulez qu'un pasteur vous partage sa crainte qu'il a eue l'année dernière à la même époque là ? Oui ? Bon, les autres vous en fichez ? L'année dernière, on était ici, on préparait la rentrée, puis on savait qu'en mars, il y avait une échéance. C'est qu'on n'allait plus avoir de parking. Et moi, quand je partageais avec l'équipe, je dis, mais comment on va faire ? Et on était plusieurs dans ce cas à se dire, mais comment l'église va continuer de fonctionner alors qu'on n'aura plus de moyens pour se stationner ? On est un an après, il n'y a toujours pas de parking, mais même un 31 décembre, alors que ce soir, on va faire la fête, l'église, elle est remplie. Ça, c'est la fidélité de Dieu. Et c'est aussi de voir que les gens sont plus attachés à Jésus qu'à leur perte de confort. Et ça, c'est vraiment une source d'encouragement. Alors j'aimerais juste que, alors qu'on va prendre un chant qui parle de la fidélité de Dieu, c'est un nouveau chant, en tout cas pour ici, pour l'épi, qu'on puisse fixer pas sur ce qu'on n'a pas eu ou sur ce qu'on a perdu dans l'année 2023, mais sur la grâce de Dieu et sa fidélité, qui ne nous a pas abandonnés. Alors que on va chanter ces paroles, que vous puissiez les saisir comme une prière. Peut-être pensez à vos situations, là où Dieu vous a fait grâce, là où Dieu a été fidèle. Alors que vous chantez ces paroles, que ça puisse être une prière pour dire « Seigneur, tu as été fidèle hier. » Et c'est sur la base de ta fidélité hier que je veux entrer dans le demain. Parce que Dieu a été fidèle, ses promesses sont vraies. Et s'il a été là hier avec moi, il sera avec moi dans les nouveaux défis, dans les nouvelles situations qui vont se présenter en 2024. Amen. Alors comme une prière, si vous voulez vous lever, alors que vous prenez ces paroles pour une première fois.
Certainement entendu quand même pendant toute la période qu'on vient de vivre. The goodness of God. La bonté de Dieu.
Seigneur, je t'aime. Ta bonté ne faille jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Dès le moment où je m'éveille et jusqu'à mon coucher, je chanterai combien mon Dieu est bon. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon.
J'aime ta voix. Et quand je traverse le tu es mon guide, tu restes au plus près de moi. J'ai compris qui tu étais, mon père et mon ami. J'ai découvert combien mon Dieu est bon. Ensemble, tu as toujours.
Tu as toujours été vide. Tu as toujours.
Merci beaucoup pour ce chant. C'est un chant qui m'a accompagné tout au long de cette année 2023. La bonté de Dieu, la fidélité de Dieu. Que serions-nous si Dieu n'était pas fidèle? Et bon, je crois que nous ne serions pas là ce matin. J'espère que vous avez passé de bons moments ensemble. Je souhaite en tout cas. Nous sommes aujourd'hui le dernier jour de l'année. Un jour où l'on passe un petit peu en revue cette année écoulée et on peut dire notre reconnaissance au Seigneur. Mais c'est aussi une occasion de marquer une pause, de faire le point sur notre vécu dans notre relation avec le Seigneur. Voilà pourquoi le thème de cette matinée, c'est bien finir la course. Dans Actes chapitre 20 et au verset 17, on fera la lecture dans quelques instants, je vous donne juste rapidement le contexte. Nous sommes dans la deuxième partie du livre des Actes des Apôtres, qui se présente en quelque sorte comme un journal de bord des trois voyages missionnaires de l'apôtre Paul. Il a effectué ses voyages autour du bassin méditerranéen pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et comme il va le dire lui-même, la bonne nouvelle de la grâce de Jésus-Christ. Il termine son troisième voyage et il profite d'une escale pour s'adresser aux responsables de l'église d'Éphèse. Et voilà ce qu'il leur dit, je lis dans la version du Semeur. Pendant l'escale à Milet, ce qui est aujourd'hui en Turquie, Paul envoya quelqu'un à Éphèse pour demander aux responsables, aux anciens de l'église, de venir les rejoindre. Quand ils furent arrivés auprès de lui, il leur dit « Vous savez comment je me suis comporté pendant tout le temps que j'ai passé parmi vous. Depuis le jour de mon arrivée dans la province d'Asie, donc là aussi la Turquie, j'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec des larmes, au milieu d'épreuves suscitées par les complots des Juifs. Vous savez aussi que, sans rien vous cacher, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui pouvait vous être utile, soit publiquement, soit dans vos maisons. Sans cesse, j'ai appelé Juifs et Grecs à se tourner vers Dieu et à croire en Jésus notre Seigneur. Et maintenant, me voici en route pour Jérusalem. L'Esprit m'y oblige, mais j'ignore ce qui m'arrivera. Tout ce que je sais, c'est que le Saint-Esprit m'avertit de ville en ville que je dois m'attendre à être emprisonné et à connaître des souffrances. Ma vie m'importe peu. Je ne lui accorde aucun prix. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course et d'accomplir pleinement le service que le Seigneur m'a confié, c'est-à-dire de proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut incliner notre tête dans la prière et demander au Seigneur de nous parler personnellement ce matin? Nous avons chanté ta bonté, ta fidélité, Seigneur. Nous t'avons loué, nous t'avons adoré. Nous voulons aussi nous incliner devant ta parole. Et nous te demandons de nous parler, peut-être de nous interpeller, peut-être de rectifier ici ou là une attitude, un comportement, une conduite. Nous voulons te dire, Seigneur, parle. Nous voulons t'écouter. Nous voulons recevoir. Nous voulons t'aimer de mieux en mieux, de plus en plus. Bénis ce temps d'écoute de ta parole. Merci. Amen. Le souci de l'apôtre Paul ici, c'était de bien terminer sa course. Il dira, mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course. Et il compare, et ce n'est pas la première fois qu'il le fait, il compare la vie chrétienne à une course. Et 6 fois dans le Nouveau Testament, la vie chrétienne est comparée à une course. Nous sommes au 1er siècle, au moment de la rédaction de ce passage, et à cette époque, il y avait 2 jeux très populaires. Les Jeux olympiques qui se déroulaient à Athènes, et puis il y avait les Jeux de Corinthe, qu'on appelait aussi les Jeux isthmiques. Il y avait entre autres disciplines, la course, le saut, la boxe, le lancer de javelot, la course de chariot, c'est la Formule 1 de l'époque, les courses d'athlètes en armure, et ça devait être quelque chose. Et pour les vainqueurs, il n'y avait pas de médaille à ce moment-là, mais il y avait une couronne de laurier. Le nom du vainqueur était proclamé, ainsi que le nom de sa ville ou de son village d'origine, et puis un défilé était organisé pour lui en son honneur. Et en récompense de son exploit, il recevait ce qui correspond aujourd'hui à l'équivalent d'un an de salaire, 500 drachmes. Il avait droit à une place d'honneur dans les manifestations publiques, et ses enfants, tenez-vous bien, bénéficiaient d'une bourse d'études jusqu'au plus haut niveau d'études. Il était exempté du service militaire, toutes ses dettes étaient effacées, il était dispensé de toutes les taxes et de tous les impôts jusqu'à la fin de sa vie. On comprend pourquoi les athlètes s'entraînaient dans tous les sens et dans tous les coins de rue. Et dans une course, eh bien, il y a d'abord une ligne de départ. Notre course, elle démarre lorsque nous accueillons Jésus-Christ dans notre vie comme notre Sauveur et comme notre Seigneur. La course ne démarre pas à notre naissance, mais à notre nouvelle naissance, c'est-à-dire à partir du moment où il y a un miracle en nous, c'est l'Esprit de Dieu qui vient en nous, nous accueillons Christ comme notre Sauveur et nous découvrons notre véritable identité. En Christ, je sais qui je suis. Parce que on ne naît pas chrétien, mais on le devient par choix personnel, par une décision de notre volonté. Et cette course, ce n'est pas une course de vitesse. Il ne s'agit pas de compétition. Il ne s'agit pas de savoir qui arrivera le premier, mais c'est une course d'endurance. On l'a souvent dit, la vie chrétienne, ce n'est pas un sprint, mais c'est plutôt un marathon, c'est-à-dire une course d'endurance. Et nous sommes seuls sur le terrain, seuls dans notre couloir. Bien sûr que la foi a une dimension collective, mais dans cette course, nous sommes seuls sur le terrain. Et notre plus grand adversaire, c'est nous-mêmes. Le plus grand obstacle qui pourrait nous empêcher de bien finir notre course, c'est nous-mêmes. Alors nous n'avons pas tous pris le départ au même moment. Certains se sont convertis à Jésus tardivement. En faisant le bilan de leur vie, ils se disent « si seulement j'avais connu Jésus plus tôt, je me serais évité bien des déboires, bien des erreurs, bien des choses difficiles et douloureuses. Malheureusement, j'ai pris de mauvaises décisions et j'en subis encore les conséquences. Mais le Seigneur est là et dans sa fidélité, il peut nous aider. J'ai un frère qui s'est converti tardivement. Et quand il a vu ses frères et sœurs prendre les guitares, faire la louange dans l'église, il a dit « je ne peux pas rester comme cela ». Moi aussi, il a acheté une guitare. Aujourd'hui, il m'a dépassé. Il m'a dépassé parce qu'il a voulu rattraper le temps. Et mon frère, ma sœur, même si tu t'es converti tardivement, le Seigneur est celui qui peut raccourcir encore le temps. Un texte biblique fait allusion à cela. Ce qui a été mangé par les sauterelles peut être rattrapé. Et seul Dieu a le secret de multiplier ta vie dans la mesure où tu la lui confies. Et puis, il y a d'autres frères et sœurs qui ont peut-être connu un démarrage lent, parfois un peu chaotique ou peut-être même superficiel. Tu n'as peut-être pas toujours été sérieux au début de ta vie chrétienne, mais tu peux le devenir. Nous allons tourner une page du calendrier, mais l'important, ce n'est pas de tourner la page du calendrier parce que ça ne changera rien. L'important, c'est de tourner la page de ta vie, de tourner une page, de prendre les bonnes décisions. Parce que finalement, ce sont les décisions qui vont nous amener dans des changements de conduite, de comportement. L'important n'est pas de savoir où et quand vous êtes entré dans la course, mais l'important c'est de commencer la course et c'est de vouloir aussi la poursuivre jusqu'au bout, courir de manière à bien finir la course. Puis la ligne d'arrivée, eh bien c'est la fin de notre vie. Certains parmi nous sont un peu plus proches de la ligne d'arrivée que d'autres. et nous voulons vraiment tout mettre en œuvre pour bien finir. L'apôtre Paul écrit à Timothée dans la deuxième lettre à Timothée, chapitre 4 et au verset 7, il dit ceci: « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi, le prix de la victoire, c'est-à-dire une justice éternelle, est déjà préparé pour moi. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra au jour du jugement, c'est-à-dire ce jour d'examen, ce jour d'évaluation, et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue. » Ce sont là les dernières paroles de l'apôtre Paul, quelques semaines plus tard, environ vers l'âge de 60 ans, il va être exécuté. Après 30 ans de ministère, il nous livre ici le résumé de sa vie, le résumé de sa vie de service en un seul verset. J'ai combattu le bon combat, le beau combat. Ici, c'est une cause noble, une cause distinguée. J'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Et obtenir la couronne, en grec stéphanos, le prix, la récompense, la couronne, était pour lui une grande source de motivation. À partir du texte qu'on a lu tout à l'heure en introduction, je voudrais faire ressortir trois facteurs qui ont aidé l'apôtre Paul à finir la course. Et ce sont des choses qui peuvent nous aider aussi. Alors bien entendu, la vie et le parcours de l'apôtre Paul étaient uniques. Et notre vie et notre propre parcours sera également unique, mais il y a des principes applicables à tous. Le premier principe, l'humilité. Acte 20, deuxième partie du verset 18. « Vous savez comment je me suis comporté pendant tout le temps que j'ai passé parmi vous, depuis le jour de mon arrivée dans la province d'Asie, j'ai servi le Seigneur en toute humilité. » Paul s'adresse aux responsables de l'Église. Il est en quelque sorte un mentor, un modèle. Il écrira ailleurs: « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » L'un des plus grands leaders, puisqu'on parle de lui, l'un des plus grands leaders chrétiens de tous les temps, introduira toujours ses lettres par ces mots: « Paul, serviteur de Jésus-Christ. » Serviteur de Jésus-Christ, quel que soit le titre, quelles que soient les fonctions auxquelles on peut accéder dans la vie, je pense que c'est important de ne jamais oublier qu'en tant que chrétien, nous sommes d'abord des serviteurs. Ici, c'est même le mot esclave qui est employé, doulos. Et c'est ce même terme qui est attribué à Jésus, en tant que serviteur, l'esclave. L'humilité est essentielle si l'on veut bien terminer sa course. Alors, l'opposé de l'humilité, on pense tout de suite à l'orgueil. Pour Jean Calvin, l'orgueil est la mère de tous les péchés. Parce qu'au fond, si on remonte à l'origine de tous les péchés, on y trouvera toujours l'orgueil. L'orgueil, c'est ce qui a perdu le diable. Il voulait s'élever au-dessus de Dieu, il voulait être le meilleur, il voulait être le premier et le plus grand. L'orgueil a causé sa chute. Et l'apôtre Paul est l'exemple vivant qui montre que Dieu peut transformer une vie. Il a été pendant longtemps un accusateur farouche de l'Église. Il persécutait les chrétiens. Et sur la route de Damas, il a été frappé par la lumière du Seigneur. Il a été dérouté de sa course de persécuteur pour devenir un chrétien passionné de Jésus, passionné pour le royaume de Dieu. Saisi par l'amour de Dieu, sa vie a complètement changé. Dans Philippiens 3, il dira « J'ai été saisi par Jésus. C'est lui qui m'a saisi. C'est sa grâce qui m'a saisi. » Il ne l'oubliera jamais durant tout son parcours, tout son ministère ou son service. C'est le même vocabulaire. Il ne l'oubliera pas. Il sait qu'il a été saisi par la grâce de Dieu. Ce n'est pas lui qui a saisi, mais c'est Jésus qui l'a saisi. Ce matin, laissons-nous saisir par le Seigneur. Dans 1 Timothée 1, il dira « La parole que voici est certaine. Elle mérite d'être reçue sans réserve. Jésus est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs, Je suis pour ma part l'exemple type d'entre eux. Le texte second dira, je suis le pire, je suis le premier de tous les pécheurs, je suis le pire d'entre eux. Autrement dit, si Dieu a été capable de faire de ma vie ce qu'il en a fait, il est capable de faire de chacune de nos vies quelque chose de beau et de merveilleux qui reflète sa bonté, qui reflète sa grâce. Et dans sa vie, l'orgueil a cédé la place à l'humilité. On a toujours un petit peu de mal à définir ce que c'est que l'humilité. Moi, je bénis Dieu pour les derniers mois, ces dernières années, le nombre de livres qui est sorti sur la thématique de l'humilité. Ça montre que Dieu est en train de ramener quelque part le curseur vers quelque chose d'essentiel dans notre vie, l'humilité. Est-ce que tu cherches à briller, à être vu, ou est-ce que tu cherches à t'effacer ? Est-ce que tu caches tes défauts et tes fragilités, ou est-ce que tu fais part de ta vulnérabilité ? Est-ce que tu insistes davantage sur tes réussites, sur tes exploits, ou est-ce que tu as conscience de tes limites et de tes faiblesses ? Est-ce que tu es sur la défensive, ou est-ce que tu es abordable et accessible ? As-tu besoin de toujours donner ton avis, même quand on ne te le demande pas ? Ou prends-tu du temps pour écouter, pour réfléchir, avant de parler, ou peut-être même avant de te taire ? Faut-il que tu contrôles et que tu maîtrises les situations ? Ou es-tu plutôt détendu, prêt à faire confiance et à donner l'occasion à d'autres de te faire confiance ? Est-ce que tu rejettes la responsabilité sur les autres, ou est-ce que tu assumes pleinement la responsabilité de tes erreurs ? Est-ce que tu juges les autres avec une plus grande sévérité que tu ne te juges toi-même, ou est-ce que tu supportes les autres avec patience ? Es-tu rancunier ? As-tu du mal à demander pardon ? Où demandes-tu facilement pardon ? Ce sont là quelques tests d'humilité. Matthieu chapitre 11, verset 29, Jésus dira « Prenez mon joug sur vous, mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Philippiens 2, verset 8, Jésus s'est humilié, il s'abaissa lui-même, en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Et Jacques attire notre attention sur les conséquences liées à l'orgueil. Il dira, Jacques 4, 6, Dieu s'oppose, ou bien Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Peut-être que l'un ou l'autre parmi nous est en train de vivre une période de questionnement. Tu te poses des questions et tu te dis, mais le Seigneur ne répond pas à mes prières. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Pourquoi ne réponds-tu pas, Seigneur ? Se pourrait-il que Dieu soit en train de te résister, de s'opposer à toi ? Alors, ce n'est pas toujours le cas, bien sûr. Je ne veux pas généraliser. Réfléchissons, posons la question, demandons au Seigneur s'il y a peut-être de l'orgueil qui fait comme un barrage dans la relation avec lui. Seigneur, es-tu en train de me résister ? Je crois que nous sommes tous à la même école, tous. Matthieu 23, verset 12 dira, « Car celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse lui-même sera abaissé. » Élevé. L'humilité est donc essentielle pour bien finir la course. Deuxièmement, l'endurance. Et lorsqu'on regarde à la vie de l'apôtre Paul, on comprend que c'est un homme qui a eu une grande endurance. Acte 20, verset 19. Avec des larmes, au milieu d'épreuves suscitées par les complots des Juifs. L'apôtre Paul a servi Dieu au péril de sa vie, Encore une fois, nous n'avons pas tous le même parcours, mais il est pour nous, comme Jésus, et pour nous, un exemple et un modèle de vie chrétienne et de service chrétien. Il n'a pas hésité à témoigner de sa foi devant les rois, les magistrats, des groupes religieux de son temps, mais il a été incompris des religieux qui l'ont accusé à maintes reprises, et son attitude est extraordinaire. Et je fais référence au don spirituel de tout à l'heure. Son attitude a été exemplaire. Malgré les oppositions, les attaques, les emprisonnements, les naufrages, les déceptions, les abandons des uns et des autres, Paul a continué à servir le Seigneur avec joie. Avec joie. Il est parti, il l'a dit lui-même, j'ai combattu le bon combat et la couronne m'est réservée, et on ne sent aucune note de tristesse ou de regret ou de remords. Il est parti dans la joie d'avoir pu servir son Seigneur. L'endurance de Paul est un témoignage pour nous, parce qu'il a saisi toutes les occasions, favorables ou non, pour défendre sa foi. Il n'a pas abandonné la mission que Dieu lui a confiée. Servir Dieu ne peut pas être conditionné par nos envies. On n'a pas toujours envie. Il y a bien des choses qu'on n'a pas envie de faire, mais il faut les faire parce que c'est juste. Et à un moment donné, dans ma propre vie, j'ai décidé que je ne ferai pas seulement ce dont j'ai envie, mais je ferai ce qui est juste. Et je crois que c'est une bonne décision à prendre. On le fait parce que c'est juste. Il y a eu d'autres athlètes et d'autres coureurs avant nous, et c'est bon de se le rappeler. Hébreux chapitre 12 au verset 1er dira « C'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, on pourrait dire de coureurs, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés, et courant avec endurance ou avec persévérance, c'est la même idée, l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Ce supplice était réservé aux malfaiteurs, aux brigands. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à celui qui a enduré. Trois fois ce mot revient, endurer, endurance. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui pour que vous ne vous lassiez pas, vous ne vous laissiez pas abattre, ça dépend des versions, vous ne laissiez pas abattre par le découragement. Jésus est notre grand modèle d'endurance, de persévérance, j'allais dire de résilience, surmonter, dépasser ce qui nous touche, ce qui nous atteint. Il est allé jusqu'au bout avec joie, jusqu'à la croix, à cause de toi, à cause de moi. Quel modèle ! Il est sorti du tombeau, vainqueur, il s'est assis à la droite de Dieu. Et Dieu est à la recherche de personnes fidèles, prêtes à le suivre jusqu'au bout, prêtes à le servir. Est-ce que tu veux, comme moi, faire partie de cette catégorie de personnes ? L'humilité, l'endurance, et puis un troisième facteur, quelque chose qui était très fort dans la vie de l'apôtre Paul, c'est l'abondant. Je n'ai pas trouvé d'autre mot pour correspondre à cette troisième idée. Abondant dans le sens de vie livrée, dans le sens du chant qu'on chante quelquefois ici, « Je m'abandonne ». C'est une chose de le chanter, c'est autre chose de le vivre. Acte 20 au verset 22, « Et maintenant, me voici en route pour Jérusalem. L'esprit m'y oblige, mais j'ignore ce qui m'y arrivera. Tout ce que je sais, c'est que le Saint-Esprit m'avertit de ville en ville que je dois m'attendre à être emprisonné et à connaître bien des souffrances. Ma vie m'importe peu. Je ne lui accorde aucun prix. Ça tranche un petit peu avec certains discours. Alors c'est vrai qu'on a de la valeur aux yeux de Dieu. Et notre valeur, c'est celle que le Seigneur nous donne. Notre identité, c'est celle que le Seigneur nous donne. Nous avons en Christ. Mais d'un autre côté, l'apôtre dit, « Ma vie m'importe peu. Je ne lui accorde aucun prix. » Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course et d'accomplir pleinement le service que le Seigneur m'a confié, c'est-à-dire de proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Alors quand on pense à l'apôtre Paul, on pense à un monument, on pense à cet érudit, cet intellectuel, théologien, rabbin. C'est énorme, son bagage intellectuel, spirituel, c'est énorme. Mais sur le plan humain, Paul n'avait rien pour impressionner. Et en tant que chrétien, c'est une question à laquelle il faut répondre aussi. Est-ce que je veux impressionner ou est-ce que je veux influencer? Paul était un petit bonhomme, on l'appelait Paulus. Petit, le faible, peu considérable. Ses adversaires, puisqu'on parle des complots des Juifs ici, ces groupes religieux, ses adversaires, l'appelaient le moins que rien. Et en préparant ce message, je pensais à un moment difficile et un petit peu douloureux de ma vie, où j'étais invité en Allemagne à parler à un parterre de plusieurs centaines de pasteurs. Et puisqu'on parle de course, c'est parfois difficile. Quelquefois, le niveau de responsabilité que nous avons déclenche aussi de l'adversité, de l'opposition. Et là, il faut compter aussi avec un adversaire commun qui vient nous susurrer dans l'oreille, mais tu crois vraiment que tu vas faire la différence? Tu crois vraiment? Tu te prends pour qui? Et je me souviens très très bien de ce moment-là, nous étions en Allemagne, dans le nord de l'Allemagne, et au moment, juste quelques minutes avant de prendre la parole devant ses collègues, c'est le pasteur Adolf Rutz, pour ceux qui le connaissent, qui est décédé maintenant, qui me présentait, et pendant qu'il me présentait, il y avait cette voix qui me disait « Mais tu te prends pour qui ? Tu crois que tu as quelque chose à dire là, ces collègues ?» Et à côté de moi, il y avait un docteur en psychologie qui était professeur dans l'école biblique de cette union d'église qui m'avait invité. Et cette voix qui me disait, tu vois, lui, il a des choses à dire. Lui, il est docteur en psychologie. Et toi, tu n'as rien à dire. Qu'est-ce que tu vas leur raconter? Qu'est-ce que tu vas leur dire? Et j'ai compris que c'était l'adversaire. Et la première réunion se passe, je partage le message que Dieu avait mis sur mon cœur. Et le message suivant, c'était le docteur en psychologie qui montait sur l'estrade. Et quand il a introduit son discours, il a dit, quand notre frère Michel a parlé, j'étais sur ma chaise et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as à dire, toi? Qu'est-ce que tu as à dire? T'es un minus, t'es un minable. Vous voyez, on est tous à la même école. Et je parle peut-être à quelqu'un ce matin qui entend cette voix, mais tu te prends pour qui? Tu crois que tu vas faire quelque chose? Ben, tiens, tu as vu ta vie et cette semaine, tu t'es regardé? Oui, c'est la grâce de Dieu qui nous permet de tenir et c'est sa fidélité. C'est lui et l'apôtre Paul l'avait bien compris. Parce que de tous les côtés, et en plus, l'apôtre Paul avait affaire à ce qu'on appelle dans le texte un ange de Satan qui le souffletait. C'est-à-dire que là où il allait systématiquement une résistance, une opposition. Et on lui rappelait, t'es le minus, t'es le minable, t'es le moins que rien. On n'a pas beaucoup développé l'aspect psychologique de cet homme, mais qu'est-ce qu'il a dû souffrir? Qu'est-ce qu'il a dû souffrir? Et j'essaie de me mettre à sa place pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et plus vous exercez de responsabilité dans la vie spirituelle, dans le domaine spirituel, et plus vous devenez la cible. Et quand vous êtes une cible, on vous tire dessus. Courage. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira « Prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Il souffrait aussi d'un handicap tout au long de son ministère. On ne sait pas trop exactement ce que c'était. On pense que c'est un problème oculaire, puisqu'il écrivait, quand il écrivait lui-même, il écrivait avec de grandes lettres. Il a été battu, il a vu la mort de près, il a été lapidé, il a été fouetté, emprisonné. 3 fois, il a fait naufrage, il a été attaqué par des brigands, il a souffert de la faim, de la soif, du froid, de la fatigue. Et toute cette vie a laissé des traces et des traumatismes. C'était sa course à lui, elle était unique. La nôtre est différente. Nous n'avons pas le même appel, nous n'avons pas la même mission, mais nous voulons, comme lui, finir la course. L'apôtre Paul ne s'est pas économisé, mais il a donné le meilleur de lui-même. Et chaque matin, en me levant, je fais cette prière au Seigneur. Vous pouvez la faire vôtre aussi, Seigneur, aujourd'hui. Je veux donner le meilleur de moi-même. Je ne veux pas m'économiser, mais je veux donner le meilleur de moi-même. Et c'est en cela qu'il est un exemple pour nous. Frères et sœurs, nous n'avons qu'une seule vie. Moi, je ne voudrais pas gâcher la mienne. On a le choix, on peut la garder égoïstement pour soi, ou on peut la livrer au Seigneur. Je suis en train de lire un livre, le livre du général De Villiers, et il a une formule intéressante. Il dit « Mon âme pour Dieu, mon corps pour la patrie et mon cœur pour la famille. » J'ai toujours essayé de comprendre comment ça pouvait fonctionner, parce qu'on a un garçon qui est militaire, et je comprends mieux tout l'état d'esprit. Son livre s'appelle « Servir ». Et on apprend énormément dans la vie d'un soldat. Et la notion de combat, c'est une cause noble. Nous n'avons qu'une seule vie, ne la gâchons pas. L'apôtre a été averti que la prison et bien des souffrances l'attendaient. Et de part et d'autre, dans les villes où il allait, les disciples, les chrétiens lui disaient « Attention, tu vas subir de la torture, tu vas subir des souffrances, etc. » Et l'apôtre Paul de dire « Je vous entends, c'est vrai, le Saint-Esprit m'avertit aussi, mais je suis décidé à finir la course. » Alors Paul n'avait pas envie de mourir, bien sûr, il n'était pas masochiste. Mais du fait qu'il avait abandonné sa vie au Seigneur, du fait que sa vie était livrée, il n'avait qu'une ambition, c'est de suivre la volonté de Dieu pour lui. Il s'est engagé à le suivre jusqu'au bout. La version du semeur dit « Le Saint-Esprit m'oblige ». La version seconde dit « Lié par l'Esprit ». Lié par l'Esprit. Alors oui, parce que obéir, c'est faire la volonté de quelqu'un d'autre. Et si j'ai à cœur, comme l'apôtre Paul, de faire la volonté de Dieu, eh bien je dis « Seigneur, montre-moi, conduis-moi, je veux faire ta volonté. » Et à un moment donné, le fait de faire la volonté de Dieu est tellement fort, Dieu a sa volonté pour moi, et le fait que moi j'ai envie de faire la volonté de Dieu, on se trouve comme liés. Ma vie est livrée à Dieu, sa volonté devient ma volonté devient sa volonté, et c'est ce qui va nous lier. Ma vie m'importe peu, je ne lui accorde aucun prix. Autrement dit, il est en train de nous dire ici, j'aime Jésus plus que tout. C'est ça qu'il est en train de nous dire. J'aime Jésus plus que ma vie, et plus que toute autre chose. Et je sais qu'il m'accompagnera jusqu'au bout. Alors la Bible nous parle de gens qui ont bien commencé la course et qui se sont arrêtés en cours de route. Démas. Démas m'a abandonné. Il a aimé le monde présent et il est parti pour Thessalonique. Ça a été un coup pour l'apôtre Paul. Il a aimé le monde plus que Jésus. Un autre personnage célèbre qui n'a pas terminé sa course, Judas. Il a bien commencé. Il était parmi les 12 disciples. Il avait été choisi par Jésus. Il a prêché. Il a guéri les malades. Il a même chassé les démons. Mais il aimait l'argent plus que Jésus. Il l'a trahi pour 30 pièces d'argent. Billy Graham a dit un jour, « Il n'y a rien de mal à ce que les hommes possèdent des richesses. Le mal vient quand les richesses possèdent les hommes. » Y a-t-il aujourd'hui un obstacle sur notre route? Y a-t-il quelque chose qui t'empêche d'achever ta course? L'apôtre Paul interpellera les Galates. Il dira, mais vous couriez bien. Qu'est-ce qui vous a arrêté? Qui vous a empêché d'obéir à la vérité? Qui vous a détourné? Qu'est-ce qui vous a arrêté? Vous étiez bien parti. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui vous empêche de poursuivre la course? Frères et sœurs, poursuivons la course. Bénissons Dieu pour cette année écoulée. C'est vrai que nous avions quelques craintes liées au parking et à bien d'autres choses, mais Dieu a été fidèle et vous avez été fidèle. Vous n'avez pas lâché. Et nous sommes reconnaissants, et je le dis au nom de l'équipe pastorale, et je suis fier de l'équipe, a vécu vraiment une année exemplaire dans le tuilage et dans la communion et dans le travail d'équipe. Ça a été remarquable ce que nous avons vécu ensemble, et vous le savez bien. Merci pour votre générosité, merci pour votre implication, merci pour votre investissement, pour votre fidélité. Mais nous voulons continuer, nous voulons poursuivre le chemin. Pour qu'un jour nous puissions être en sa présence, Seb, si tu veux bien revenir au piano, s'il te plaît, merci. Pour qu'un jour nous puissions dire, ou nous entendre dire plus exactement, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » L'apôtre Paul était sur la route de Damas. Il n'était pas encore converti. Il était frappé par cette lumière et le Seigneur l'a arrêté. Comme on l'a lu tout à l'heure, Jacques dira, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Et sur la route de Damas, il est par terre. Et il va poser deux questions au Seigneur. La première, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et Jésus dira, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Ce sera difficile de regimber contre les aiguillons. Autrement dit, ce sera difficile. Tu n'y arriveras pas. Et l'apôtre capitule. Et la deuxième question qu'il va poser, c'est celle-ci. Que veux-tu que je fasse? On va incliner notre tête dans ce temps de prière avec lequel j'aimerais terminer. En tournant une page. Tournant une page de notre vie. Plus qu'une page de calendrier. Faisons le point ce matin. Peut-être que quelqu'un a besoin de poser cette question. Qui es-tu, Seigneur? Voici quelques fois que tu viens, tu es peut-être nouveau, tu t'approches du Seigneur et tu as besoin de le rencontrer. Pose-lui la question. Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Montre-moi. J'ai besoin, Seigneur, que tu me parles, que tu me guides. J'ai besoin de te découvrir. Dieu est fidèle, il va te répondre. Peut-être que toi qui as besoin d'aller plus loin, tu as besoin de poser cette question aussi. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Et là aussi, le Seigneur est fidèle. Il va te parler, il va te dire. te montrer ce qu'il attend de toi. Et si l'occasion de cette dernière journée de cette année était de dire, bien Seigneur, oui, j'ai besoin que tu me parles, j'ai besoin que tu me conduises, j'ai besoin d'entendre ta voix pour que tu me montres ce que tu attends de moi. Seigneur, je te prie pour tous les amis, je te prie pour mes frères et sœurs. Je prie, Seigneur, pour que tu parles aux uns et aux autres. Merci de ta fidélité, de ta bonté toute cette année. Ô Seigneur, tu as été fidèle même au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Mais nous voulons te découvrir. Nous voulons avancer, progresser. Nous voulons aller jusqu'au bout de notre parcours, les uns comme les autres. Nous voulons te le dire chacun personnellement. Merci de te révéler. Merci aussi de nous dire ce que tu attends, ce que tu attends de moi. Parle, Seigneur. Tes servantes, tes serviteurs, écoute. Merci de ta fidélité et merci de ta bonté. Voulons aussi, chacun notre niveau, comme l'apôtre Paul qui a été la réponse à sa question durant tout son ministère, voulons devenir aussi une réponse à notre question, une réponse à notre propre prière. Merci de nous le permettre. Merci. Amen.
Continuer dans ce temps de déclaration en chantant la bonté de Dieu ensemble. On s'appuie sur Dieu, sur sa bonté. Le Seigneur est bon. C'est dur parfois de le saisir, mais Dieu est bon, all the time, en tout temps.
Je t'aime, ta bonté ne faille jamais, et chaque jour tu me tiens dans tes mains. Dès le moment où je m'éveille et jusqu'à mon coucher, je chanterai combien mon Dieu. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été là pour moi, avec le souffle qui m'est donné. Je chanterai combien mon Dieu est bon.
J'aime ta voix, et quand je traverse le feu, tu es mon guide, tu restes plus près de moi. J'ai compris qui tu étais, mon père et mon ami. J'ai découvert combien mon Dieu.
Toujours été fidèle, tu as toujours été là pour moi, avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu. Toujours été fidèle, tu as toujours été là pour moi, avec le souffle qui m'est donné,
je chanterai combien mon Dieu. Je chanterai combien
Yes, j'espère que cet applaudissement, c'était un signe au ciel pour dire on veut bien finir la course. Merci Michel, ce matin, pour ce que tu nous as partagé. Puis merci au Saint-Esprit, je pense, qui a conduit ce message pour cette nouvelle rentrée qui arrive. Alors si ce matin vous avez été interpellé, Michel a parlé peut-être d'entrer dans une nouvelle saison. C'est peut-être pour toi le temps aussi de t'engager avec Jésus. Si dans ton cœur tu t'es senti interpellé, dire mais oui, je veux aller plus loin avec Jésus, je t'invite simplement à l'issue de cette célébration à aller au point accueil. Tu laisses tes coordonnées, si tu veux échanger avec un des membres de l'équipe pastorale, on pourra te rappeler la semaine prochaine pour fixer un rendez-vous. Donc s'il y a quelque chose qui t'a parlé, qui t'a interpellé, n'hésite pas à le faire. Puis peut-être pour d'autres, il y a une situation qui est lourde ou voilà, il y a des choses difficiles, il y a une équipe qui va se tenir au niveau du piano pour prier avec vous. Si vous avez besoin de prière, vous avez besoin d'être encouragé, d'être fortifié, de recevoir une parole, il y a toute l'équipe Écoute et Prière qui va se tenir au piano. Donc n'hésitez pas à y aller. Donc on demandera alors que le chant après le dernier chant à ceux qui sont plus sur la gauche de laisser la place pour que des gens qui aient besoin de prière puissent avoir cet espace intime aussi pour partager, déverser leur cœur. Voilà. Est-ce qu'on peut vous demander, l'équipe de louange, un dernier chant? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On veut louer, finir 2023 en louange?
En proclamation, en disant en toi, je suis. Je recommence. En proclamation, en disant en toi, je sais qui je suis. Si on peut se lever une dernière fois ensemble.
Qui suis-je pour que le roi s'ouvre ses bras, perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi, il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant. Je suis à lui.
Dieu soit élevé. Bonne transition. Vous ne tournez pas juste une page de l'agenda. Ensemble avec la grâce de Dieu, par la foi, dans sa bonté, dans sa grâce, une nouvelle page d'histoire de vie avec Jésus s'écrit. Et on l'écrira ensemble en 2024 dans sa grâce. Amen. Un bon retour à chacune et à chacun. L'écoute est prise. On peut applaudir encore Seigneur si vous le voulez. Il le mérite. C'est à lui toute la gloire. L'espace écoute et prière est ouvert, vraiment n'hésitez pas à venir dans la prière, dans l'écoute ici, et je vais juste demander à l'allée qui est à gauche de bien vouloir quitter l'endroit, et vous allez voir les personnes, elles sont identifiées avec un badge pour venir prier pour vous. Ne loupez pas cette occasion qu'on